Radio Okapi.
Le journal, je suis Moussa Okonde.
Cinq attaques meurtrières en une semaine à Djougou, en Ituri. Malgré le renforcement de la présence militaire dans la région, une délégation gouvernementale séjourne depuis hier dans le chef-lieu de cette province pour s'enquérir de la situation. Nouvelle naissance des gorilles de montagne dans le parc national des Virunga. On en compte 7 en 6 semaines. Patience Seiba, directeur général de l'OGFREM, est notre invité ce matin. Bonjour à tous. En Ituri, 5 attaques meurtrières en une semaine ont fait une cinquantaine de morts dans 4 collectivités en territoire de Djougou, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Bounia. C'est notamment dans le Bahema Nord, Bahema Bagourou, Bahema Banyangui et Endo Okebo. Ce tableau sombre a été dressé hier dimanche par des notables des entités attaquées. Selon ces sources, cette situation est difficile à expliquer avec le déploiement des militaires FRDC dans la région. Delvin Waïsala.
La dernière attaque à date a été perpétrée par des assaillants dans la nuit de vendredi à samedi et même hier dimanche avant midi dans sept villages, notamment Salarita et Lounio, au groupement Mandro, à une dizaine de kilomètres au nord de Bounia, chefferie de Bahema Banyagi. Bilan provisoire des maisons incendiées, déplacement massif des populations, parfois avec l'air bête à Bounia. Aussi vers Tchomie et Kassegni, au bord du lac Albert, selon Bichopanga Mandro, chef de Bahema Banyagi. Le capitaine des FRDC tué, des billets de populations pillés, tel est le bilan d'une incursion des hommes armés à armée dans la nuit de jeudi à vendredi dans les localités de Tchatchaku, Upatati et Didjo au groupement Toro à collectivité de Bahema Bagourou. Mais l'attaque la plus meurtrière de la semaine passée a été perpétrée par des hommes portant des armes blanches et AP dans la journée de jeudi dans 3 villages du groupement Daoura à chefferie de Bahema Nord. Rebotche Diapataye, élu du territoire de Djougou, parlait de 50 morts, tandis que le gouverneur des provinces qui était sur terrain confirmait les décotes macabres des 34 morts. Bounia, Delbe, Waïsala, Radio Okapi.
Et à propos de cette insécurité à Djougou, une délégation gouvernementale et de la présidence séjourne depuis hier dimanche à Bounia pour s'enquérir de la situation. Le ministre de Défense, Atamatabe, fait partie de la délégation. Il s'exprime au micro de Delvin Waïsala.
Le chef de l'État nous a demandé de venir ici. Le vice-premier ministre, le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité et moi-même pour venir appuyer le gouverneur dans le combat qu'il mène contre cette cruauté, ce rebondissement de phénomènes que nous avons déjà oublié. Nous sommes là pour rétablir l'ordre. J'ai fait venir plus de 600 militaires de Guémena pour cela. Le commissaire général a fait venir plus de 300 militaires de Kinshasa pour cela. Ça ne préoccupe pas Kinshasa. Donc nous sommes obligés de suivre nos éléments, nos troupes souterraines, pour que l'ordre soit rétabli.
Après ces nouvelles tueries dans le territoire de Djougou en Ituri, la société civile rappelle que le commissaire provincial de la police, le général Henri Capende, avait annoncé il y a quelques jours avoir mis la main sur les présumés auteurs de massacres précédents, soit ceux d'il y a 2 mois. Elle exige donc un procès public rapide de ces personnes. Son coordonnateur estime que cela pourrait éclairer l'opinion sur la vraie identité de ces hommes qui sèment mort et désolation, principalement dans la communauté de Bahema Nord. Jean Bosco Lalo, président de la société civile de l'Ituri, est au micro de José Descharminga.
Nous voudrions lancer un appel pressant à toutes les personnes qui suivent la radio pour qu'ils s'impliquent. On ne saura plus gérer ça facilement. Il y a des assaillants qui ont été arrêtés, qui ont été appréhendés, qui sont ici à la police.
Et qu'est-ce qu'on fait de ces gens?
Et nous voudrions que dans les heures qui suivent, que ces gens-là soient déférés devant les cours et tribunaux, en fait et au besoin que l'audience soit tenue en public pour que l'opinion soit fixée sur la vraie identité de ces assaillants-là. Parce qu'on en a besoin, on a trop spéculé, on a trop attendu. Nous sommes au bout de patience, donc nous demandons ou nous exigeons même que ça soit déféré et pour que les têtes de ces personnes soient connues de tous et qu'on les traite comme telles.
Les parquets civils et militaires de l'Ituri affirment qu'ils n'ont reçu jusqu'à ce jour aucun dossier relatif au massacre de Djougou afin de programmer des procès au niveau des tribunaux compétents. Et puis, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Leila Zerougui, s'est dit gravement préoccupée par les actes de violence dans les territoires de Djougou, en province de l'Ituri, des violences qui ont entraîné la mort de plusieurs dizaines de personnes depuis janvier dernier, souligne un communiqué de la MONUSCO. L'attaque la plus récente, au cours de laquelle au moins 34 personnes ont été tuées, a eu lieu le 1er mars dans le village de Mazé. Michel Kifindangoé.
Je suis profondément choqué par cette dernière attaque qui a ciblé des civils et par le fait que la majorité des victimes soient des femmes et des enfants, déclare Leila Zerougui. La chef de la MONUSCO condamne toute forme de violence et appelle les autorités à enquêter rapidement sur cette attaque et à veiller à ce que la justice soit pleinement rendue. Madame Zerougui déplore aussi l'incendie d'habitation, des déplacements forcés et des actes de violence sexuelle dirigés contre des femmes. En soutien aux efforts du gouvernement congolais pour faire face à la détérioration de la situation sécuritaire, la MONUSCO a renforcé sa présence dans la zone en déployant 3 bases militaires temporaires et mène également des consultations avec toutes les communautés ainsi qu'avec les autorités afin de prévenir de nouvelles attaques et de stabiliser la situation dans la région.
Rendons-nous à présent au Nord Kivu, où la population des gorilles de montagne du massif de Virunga vient de s'enrichir avec 7 nouvelles naissances entre le mois de janvier et février 2018. Ces bébés gorilles sont nés dans 4 familles de gorilles habituées aux humains dans les secteurs Mikeno du parc national de Virunga, précise un communiqué officiel posté vendredi dernier. Bernard Danyangi. Revenons sur cet élément avec la naissance des gorilles au Nord Kivu. La population de gorilles de montagne vient donc de s'enrichir, j'ai dit, avec cette nouvelle naissance entre le mois de janvier et février 2018. Des bébés gorilles nés dans 4 familles de gorilles habituées aux humains. Nous suivons donc cet élément de Bernard Danyangi.
Les 5 premières naissances ont été enregistrées en janvier dans les familles Mapua, Umba et Kibirizi et les 2 autres au cours du mois de février dans la famille Bageni. En tout, 2 gorilles femelles et 5 mâles ont pu naître durant les 2 mois, disent les responsables du secteur Mikeno. Ce record est le résultat des efforts conjoints éco-gardes de l'ICSN et docteurs de gorilles qui ont réussi à dépolluer le secteur Mikeno des pièges qui menaçaient les gorilles et assurer le bon suivi et la préservation de la santé de ces grands singes, disent ses sources. Les 10 dernières années, la population de gorilles de montagne au monde est passée de 720 à environ 1000 individus, dont la moitié vit dans leur habitat naturel, dans le massif de Virunga, que se partagent la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Précisons que le gorille de montagne est la plus importante source des recettes touristiques, de l'ordre de plus de 300 millions de dollars américains l'an pour les 3 pays. Goma, Bernard Danyangi, Radio Kapi.
Toujours au Nord Kivu, la Fédération des comités des pêcheurs individuels du lac Édouard demande la démarcation de la frontière entre la RDC et l'Ouganda sur le lac Édouard. Dans une lettre adressée vendredi au gouverneur du Nord Kivu, la FECOPL dit que le balisage de cette frontière liquide a été décidé entre les émissaires de 2 pays à l'issue de la rencontre de juin 2016 à Kasese en Ouganda. Le secrétaire général de cette organisation basée à Vichumbi dit craindre que le retard dans l'exécution de cette mesure ne pérennise les conflits entre pêcheurs et forces des sécurité des 2 pays autour de la gestion des ressources du lac Édouard. José Moukoura au micro de Bernard Danyangi.
Il y a toujours des arrestations au niveau de l'Ouganda et même au Congo. Donc soit le pêcheur congolais arrêté en Ouganda, soit le pêcheur ougandais arrêté au Congo. Et dans la réunion de Kasese, les délégués des Congolais et les délégués des Ougandais, ils ont signé un communiqué qui a été pris comme accord provisoire et dire pour arrêter ceci, puisque chaque parti aimerait défendre ses citoyens et son intégrité territoriale. Alors, il a été décidé que chaque délégation doit aller plaider, puisque la démarcation des frontières doit dépendre du gouvernement central. Alors, les délégués, comme là, c'était des autorités bureaux locales, ils ont jugé bon que chaque délégation doit partir et former sa hiérarchie. Et c'est là où le gouvernement congolais, le gouvernement ougandais doivent prendre des dispositions pour la démarcation maintenant des frayères, afin de réduire les conflits sur le lac Édouard entre les arrestations des pêcheurs congolais et les arrestations des pêcheurs ougandais.
Jusque-là, nos efforts pour joindre le gouverneur ou le ministre provincial des Affaires foncières sur la question n'ont eu aucun succès. Révision du code minier de 2002, le président Joseph Kabila rencontre demain mardi à Kinshasa sept représentants des sociétés minières. Le ministre des Mines, Martin Kabwelulu, l'a annoncé aux plus grands industriels miniers présents en RDC. Ces derniers ont adressé à trois reprises une lettre au chef de l'État dans laquelle ils demandent une audience pour faire valoir leur point de vue. En effet, le texte approuvé par le Parlement en janvier est fortement contesté par le multinational étranger. Michel Kifindangoy.
Ce nouveau code minier est sur la table du chef de l'État depuis février pour sa promulgation. L'entrée en vigueur de ce texte prend du temps alors que c'est sur demande du président de la République qu'une session extraordinaire avait été convoquée, prioritairement pour permettre au Parlement de finaliser l'examen et l'adoption de ce nouveau code minier. Si la société civile congolaise a salué l'adoption de ce texte, ce n'est pas le cas pour les opérateurs miniers. Ces derniers s'opposent à certaines dispositions de la nouvelle loi minière. Il s'agit notamment de la hausse de la redevance minière de 2 à 10%, de la réduction de certains avantages douaniers et de la suppression de la clause de stabilité de 10 ans, c'est-à-dire le code minier peut, selon la nouvelle loi, être révisé à tout moment. La nouvelle loi minière devrait déjà entrer en vigueur depuis mi-février, conformément à la constitution congolaise qui dispose qu'en ayant 15 jours après sa saisine, si le président de la République ne promulgue pas la loi, celle-ci entre automatiquement en vigueur.
Également dans l'actualité, cette déclaration du directeur de cabinet du Premier ministre, Michel Nsomwe, affirme que la primature n'a jamais autorisé des décaissements de fonds inhabituels à la Banque centrale en faveur de certains membres de son personnel. Il réagit à la publication sur les réseaux sociaux des données chiffrées reprenant ces présumés décaissements. D'après ces données, le directeur de cabinet du Premier ministre et ses collaborateurs auraient détourné au mois de janvier, par exemple, plus de 370 millions de francs congolais. Pour les directeurs de cabinet du Premier ministre, il s'agit là des fausses informations qui ne reposent d'ailleurs sur aucun document comptable. Michel Somoué, joint par Paul Matendo.
Ce sont des gens malhonnêtes que je connais, qui sont dans une intention maléfique. Les finances publiques ont des documents clairs. La finance publique repose sur des pièces comptables claires. Et ces gens, quand vous lisez leurs communiqués, ils confondent tout. Ils parlent du plan de trésorerie en indiquant des tableaux de paiements exécutés. Alors là, on est dans un plan de trésorerie, on est dans l'exécution des banques. Ça, c'est de la confusion. Ils vous alignent des barèmes des membres du cabinet du Premier ministre qui n'existent pas. Ils alignent des montants qui ont été perçus au titre de frais de fonctionnement, alors qu'il y a des mois entiers que les frais de fonctionnement ne sont pas arrivés à la primature. Bref, tout un tas de monstruosités qui sont faites juste pour abuser de la naïveté de certains jeunes qui travaillent avec nous au sein du cabinet et qui n'ont pas la culture des finances publiques.
Actualité Afrique Monde.
En un an, la listériose a tué plus de 170 personnes en Afrique du Sud. L'ONU la considère comme la plus grande épidémie de listériose jamais vue, mais les autorités sud-africaines ont fait une grande avancée. Après des mois d'enquête, elles ont enfin trouvé une des origines de l'épidémie de cette maladie bactérienne. Il s'agit d'une entreprise de transformation de viande. Toute l'Afrique du Sud était devenue paranoïaque car la listériose a fait des victimes dans les 9 provinces du pays, principalement les femmes enceintes et les nouveau-nés. Le produit incriminé est un type particulier de viande produit à partir d'abats, de porc, de bœuf et ou encore de poulet. Le procès très attendu des compagnies pétrolières Eni et Shell s'ouvre ce lundi matin à Milan, en Italie. La justice les soupçonne d'avoir versé des pots de vin pour se voir attribuer un contrat concernant un bloc offshore au Nigeria. L'affaire porte le nom d'Opel 245 comme la concession pétrolière offshore au cœur du scandale présumé, une des plus prometteuses d'Afrique, avec ses réserves estimées à 9 milliards de barils de brut. Dans le box des accusés, le PDG d'Eni, Claudio Descalzi, le directeur des explorations de Shell, Malcolm Brinded. Les deux sociétés leaders dans l'industrie comparaissent en tant que personnes morales.